l'actualité des idées aujourd'hui, elle sème le doute. La romancière et essayiste américaine Siri Husvedt, maître de conférence en psychiatrie à la faculté de médecine Weill Cornell à New York, auteur en 2010 de La femme qui tremble sur les troubles neurologiques et de Vivre, penser, regarder. C'était en 2013 un recueil de ses conférences. En librairie à la mi-mars, il faudra attendre encore un tout petit peu, son nouvel essai Les mirages de la certitude qui paraît chez Actes Sud et qui figure aussi dans l'édition américaine du recueil A Woman, Looking at Men, Looking at Women, Essay on Art, Sex and the Mind. La tête dans la psychologie, un pied dans la philosophie, un autre dans les neurosciences, elle vagabonde entre les disciplines et multiplie les points de vue. Partisane de la pensée complexe, féministe, elle redonne place aux intellectuels, femme aussi dans la vie des idées et la formation des concepts et n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de faire entendre sa voix à elle dans le débat public. Pour toutes ces raisons, nous sommes ravis de la recevoir. Siri Husvedt, bonjour.
Hello, thank you for having
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Merci d'être avec nous et bonjour à votre voix française, Robert Wolfenstein. À mes côtés, Antoine Mercier, pour vous interroger. Dans ce livre à paraître, Les mirages de la certitude, Siri Husvedt, vous vous écrivez « Je suis encore une inconnue pour moi-même ». Alors comment vous définiriez-vous aujourd'hui, à cet instant T ?
Je me définirais d'abord comme romancière, mais également comme intellectuelle et une personne animée de curiosité. Je lis depuis 50 ans à peu près. Je lis de manière très assidue dans de nombreuses disciplines et évidemment, le savoir s'accumule à travers les lectures.
Et une personne pleine de doutes et de questionnements. Le doute dont vous faites l'éloge dans cet essai à paraître donc en mars chez Actes Sud et dont nous allons reparler. Vous attaquez assez fort ces mirages de la certitude. Vous écrivez, en dépit de toutes les prédictions enthousiastes selon lesquelles l'innovation technologique va ouvrir la voie à l'utérus artificiel et à la vie éternelle, il est encore vrai que tout être humain naît du corps de sa mère et que tout être humain meurt. Ça, c'est la seule certitude que vous avez, que nous avons.
Oui, c'est vrai. Enfin, je crois qu'il faut quand même donner le contexte de cette question. On parle dans cet essai de la problématique corps-esprit. C'est une problématique qui hante la philosophie occidentale depuis les Grecs. Il n'y a aucun accord, aucun consensus scientifique en tout cas, sur ce qui constitue l'esprit. Et ça, je le dis très clairement, en tout cas j'essaie, dans mon ouvrage. Donc je ne suis pas en doute permanent sur ce qui a été décidé. Comme je le souligne, il y a quand même des accords, des consensus en science. Mais l'esprit ne fait l'objet d'aucun consensus encore. Et l'argument avancé dans l'ouvrage s'intéresse même conteste l'héritage cartésien dont se prévoit actuellement la neuroscience. C'était essentiellement dans la première génération de sciences cognitives. Je pense que, d'ailleurs je ne suis pas la seule, que c'était une démarche erronée. Il y a de nombreux philosophes et scientifiques qui sont d'accord avec moi, mais ce que je souhaitais faire ici, c'était de présenter les nombreux autres points de vue qui m'ont amené à cette position.
Une question d'Antoine Mercier.
On sent qu'il y a tout de même fondamentalement une réticence à cette dichotomie esprit-corps pour vous. Qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait une unité de l'humain, de l'être humain, du sujet humain à travers son corps et son esprit?
Quand même, et là je rejoins de nombreux scientifiques pour dire que ce que nous avons ici, c'est un corps pensant. Mais en même temps, je ne pense pas que l'on puisse réduire l'être humain à ce qu'on appelle son esprit. En tout cas, son esprit ne peut pas être réduit au cerveau. Voilà. Et la raison en est que, à moins d'intégrer dans votre réflexion ce qu'on appelle l'environnement, donc, et l'autre, À moins d'intégrer tout cela, et même d'ailleurs le reste du corps, hein, c'est-à-dire les systèmes organiques, si vous excluez tout ça, vous aurez une définition très réductrice de l'esprit, qui serait simplement l'organe cérébral. Mais le philosophe qui m'a beaucoup influencé, et la deuxième génération, c'est Maurice Merleau-Ponty, hein, qui vient de chez vous d'ailleurs.
Justement, mais on passe à autre chose peut-être que la philosophie traditionnelle, c'est-à-dire le sujet ne serait pas indépendamment défini par lui-même intrinsèquement, mais serait le résultat des interactions qu'il a avec son milieu et son environnement, dans la définition même de son existence. Est-ce que c'est aussi là-dessus que vous voulez insister, notamment, vous citez beaucoup Whitehead là-dessus ?
Alors, pour répondre plus précisément, ce que j'essaie de présenter, c'est que il n'y a, c'est surtout ça que je veux dire, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus, que ce soit en philosophie, en science, en linguistique, ou même dans aucun autre domaine que j'aborde, il n'y a pas de consensus sur ce qui constitue l'esprit, hein, et donc la personnalité. Et c'est ce qui m'a amené à relire la philosophie du XVIIe siècle, une date à laquelle cette problématique était très, disons, à la mode, comme elle l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et lors de ce retour au XVIIe siècle, j'ai découvert des philosophes que je n'avais pas lus, le plus essentiel étant Margaret Cavendish, qui était une moniste, c'est-à-dire qu'elle estimait qu'effectivement le corps et l'esprit ne constituent qu'un seul être, constitué donc de ce qu'elle appelait la partie animée et inanimée. Ça, c'était sa définition à elle, et là, on pourrait la considérer comme... C'est comme une matière qui serait, en quelque sorte, injectée d'esprit, hein, qui serait imprégnée d'esprit. Et les philosophes, les scientifiques se sont réintéressés à Cavendish. Pourquoi ? Parce que elle avait quand même cette... démarche organistique, disons anti-mécanistique, hein, si je peux dire.
Vous commencez du coup par réinterroger Sirius Vett, des choses qui nous semblaient assez simplement admissibles, voire acquises, la naissance, la vie, la mort, en fait, pas du tout. Et on se rend compte aussi que la biologie, la philosophie, la psychanalyse apportent des réponses assez différentes à tous ces questionnements. Vous réhabilitez le doute réellement dans tout cet ouvrage, le doute en toute chose. Quelles sont ses vertus pour vous ?
Le doute, à mon sens, c'est le moteur de toute pensée. C'est-à-dire que si vous avez des certitudes sur toutes les réponses qu'on vous apporte, vous arrêtez de poser des questions. Hein, à mon sens, ce que le doute peut générer, c'est la question suivante. Et ce qui est important surtout, c'est de poser la question suffisamment clairement, en tout cas dans un contexte suffisamment bien défini pour pouvoir avoir une meilleure question après la question précédente.
Et vous précisez, aux yeux de Simone Weil, le doute est une vertu de l'intelligence, comme il en est de n'importe quel autre principe. Sanctifier le doute en tant que principe prééminent de la pensée peut nous constituer qu'une excuse de plus offerte à l'intolérance. Mais je crois qu'il existe certaines formes de doute qui sont vertueuses. Le doute est pour la plupart des gens moins attirant que la certitude. Le genre de doute auquel je pense ne plastronne pas. Il ne vous brandit pas un doigt sous le nez et ne se déchaîne pas sur Internet. La presse ne s'y intéresse pas. Les parades militaires ne défile pas sur un air de doute. Les politiciens risquent qu'on se moque d'eux s'ils admettent avoir des doutes. Dans les régimes totalitaires, les gens ont été assassinés pour en avoir exprimé un. Bien que les théologiens en aient compris la profonde valeur, les fanatiques religieux n'en ont rien à faire. Le genre de doute auquel je pense commence avant de pouvoir être exprimé convenablement en tant que pensée.
Et oui, commencer par les enfants. La plupart des enfants ont des doutes sur la nature même de l'existence. Comment vous dire, je crois que là, c'est un état naturel de l'être humain. que le doute. Je tiens quand même à souligner que je ne suis pas en train, disons, de mettre en avant le doute comme étant une valeur universelle et absolue. Ce que je suis en train de dire, c'est que à travers mes lectures dans de nombreux domaines et des lectures assez approfondies, je me suis rendu compte que l'on peut appliquer de nombreuses épistémologies différentes à la même question. Hein, on n'arrivera pas à la même réponse selon la démarche entreprise. Cette réflexion aboutira à, disons, une zone focalisée d'ambiguïté. Voilà. Et c'est là qui vous permet de poser la question suivante.
J'ai l'impression que votre démarche est la suivante. Vous êtes fondamentalement, malgré tout, une romancière. Vous vous intéressez évidemment aux sciences, à la philosophie. Et vous êtes légitime en tant que romancière à nous dire « Attention, moi je vois ce qui se passe dans le domaine scientifique qui prétend avoir une forme d'objectivité. Je réintroduis quelque chose de l'ordre du doute dans ces systèmes qui ont tendance à l'oublier. » Est-ce que c'est donc votre vocation de romancière qui vous permet aussi de faire cette intrusion dans la science pour réintroduire cette notion de doute?
Well, actually, I have a divided life.
Alors, par rapport à ça, j'ai quand même une vie un petit peu scindée, puisque d'un côté, je donne des conférences dans des conférences neurologiques, psychiatriques, et là, on ne me demande pas de m'exprimer en tant que romancière. On m'invite à parler parce que j'ai écrit des articles dans des publications scientifiques et mon ouvrage sur la Thinking Woman a eu une incidence aussi bien en psychiatrie qu'en psychologie et en neuropsychologie. Et j'enseigne à des internes en psychiatrie. J'ai été d'ailleurs nommé dans plusieurs instituts de psychiatrie. Donc je ne suis pas exactement un touriste comme vous semblez l'indiquer.
Pardonnez-moi, je n'ai pas voulu dire ça. C'était un compliment aussi d'être...
Oui, non, je continue. Donc je donne des conférences en neurologie. À l'hôpital de Harvard, j'ai donné des conférences et des séminaires destinés à des neurologues. Donc j'ai une démarche qui est... la légitimité est assise sur le plan scientifique à ce stade.
Mais je ne crois pas qu'il y ait pour vous, Antoine, de doute sur la légitimité effectivement de votre démarche ou de votre mode d'enquête ou de recherche aussi, Cyrus Vett. Mais vous le dites vous-même, la fiction d'une certaine manière alimente, nourrit votre analyse. Et en sens inverse, on pourrait dire aussi que vos travaux, cette double vie, cette autre casquette, vos travaux en psychiatrie, en psychanalyse, vous permettent d'alimenter votre fiction. Ce qui est intéressant, c'est cette pluridisciplinarité que vous avez, pas simplement dans le champ de la science, en mêlant philosophie, psychanalyse, neurosciences, mais aussi entre la fiction et ce qu'on appelle la non-fiction aussi ici en France.
Oui, en fait, la vraie question qui se pose est de savoir, au fond, qu'est-ce que le roman apporte que, disons, un article scientifique ne peut pas apporter, qu'un argument scientifique, une discussion ne pourra pas trouver, qu'est-ce que la fiction peut apporter, même pour les idées, c'est-à-dire qu'un roman d'idées, hein, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Ce qu'un roman peut faire, ce qu'il peut apporter à travers la fiction, et M. Bakhtin, le théoricien russe, parlait d'un espace de dialogique, c'est-à-dire que vous avez des voix multiples qui se répondent au sein d'un même texte, mais ces voix n'ont pas besoin nécessairement d'être d'accord. Autrement dit, et en plus, pardon, vous pouvez faire intervenir la subjectivité au sein, disons, d'un roman, et ça, on ne peut pas le faire, évidemment, dans les sciences. Et c'est même, d'ailleurs, difficile à faire également en philosophie. Il y a peut-être l'exception de Kierkegaard et de Nietzsche, de temps en temps. Mais voilà, là, effectivement, le roman apporte des possibilités que d'autres disciplines n'apportent pas.
Quelle part, quelle valeur donner à chaque discipline? La France, et notamment en matière d'éducation, commence à miser de plus en plus sur les neurosciences pour nous éclairer sur les facultés de mémorisation et d'attention des élèves, sur l'importance aussi du sommeil. On a en ce moment le ministère de l'Éducation qui fait appel à des scientifiques pour ajuster aussi ses méthodes pédagogiques. Est-ce que sur ce point-là, sur cette transversalité qu'on peut retrouver entre toutes les disciplines, les États-Unis sont plus en avance que nous. Ici, en France, il y a une frilosité à trop laisser les neurosciences entrer dans ces champs de la pédagogie. Est-ce que vous comprenez pourquoi ?
Yes. Mais
oui, je peux comprendre cette réticence dans la mesure où l'expérience humaine ne saurait se réduire à des substrats cérébraux. Mais en même temps, encore une fois, il me semble que plus on en sait sur le développement de l'enfance, et notamment le développement cérébral, justement, plus on commence à comprendre ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, de la plasticité cérébrale. Et là, je ne parle pas simplement de la croissance ou l'évolution de l'enfant jusqu'à l'état adulte, mais le sens même de plasticité. Enfin, qu'est-ce que la plasticité apporte ou quelles sont ses incidences sur le fonctionnement du cerveau? Tout cela, là, je crois qu'il faut quand même intégrer ces dimensions dans, si vous voulez, la réflexion autour de l'éducation. Je ne dis pas que les neurosciences doivent être l'autorité absolue. D'ailleurs, aucune discipline ne pourrait être considérée comme l'autorité absolue.
L'autorité absolue, l'alpha et l'oméga de tout. La science est souvent perçue comme monolithique, écrivez-vous, engagée dans une inexorable marche en avant. On l'a vu encore récemment dans les débats sur le réchauffement climatique. La science est facilement manipulable et pourtant, elle est très populaire aussi aujourd'hui.
I think human beings,
mais oui, je crois qu'il faut bien voir que l'être humain est toujours fasciné par l'idée d'une vérité absolue, une vérité avec un grand V. Et à travers le monde, ce que l'on considère comme les sciences « dures », entre guillemets, ces sciences ont joué ce rôle de vérité absolue pour bien des gens. Et ma propre recherche là-dessus, lorsque j'ai lu la presse scientifique, je me suis rendu compte que finalement, la vérité, entre guillemets, telle qu'elle est mise en avant, telle qu'elle est annoncée, est souvent, au fond, bien plus complexe, beaucoup moins simple que ce qu'on lit dans la grande presse. Par exemple, je ne sais pas, on parle des hormones, le rôle des hormones sexuelles, de la testostérone, de l'estrogène. Et finalement, on se rend compte que c'est une complexité énorme. Et évidemment, la réflexion autour de cela a été influencée par les valeurs sociales, les réflexions sur la féminité, la masculinité. Mais en fait, les choses sont bien plus complexes que cela. Et il y a énormément de choses qu'on ne sait simplement pas.
Il faudrait réintroduire du doute aussi dans la science. C'est une question d'autonomie.
Qu'est-ce que le doute vous permet d'affirmer aujourd'hui, Cyrus, faites de façon non pas certaine, mais à laquelle vous posez comme vous une position personnelle?
Yes, I think that what doubt,
along ce que je pourrais affirmer, c'est que le doute, mais également la réflexion, l'enquête, la lecture, l'ouverture à de nombreuses disciplines, la démarche multidisciplinaire, m'a permis en tout cas à moi de dire que, ou en tout cas de faire ressortir les lignes de faille, c'est-à-dire les endroits où les idées, les théories présentent leur faiblesse. Cet essai que j'ai écrit ici s'intéresse, se retourne toujours sur ses faiblesses.
On fête, entre guillemets, Siri Usvelt en ce moment, les un an de Trump à la tête des États-Unis. Je trouve que c'est intéressant peut-être de le souligner sur cette question du doute et des certitudes qu'on peut avoir. Vous évoquez cette nécessité de douter. Or, on sait que le doute peut aussi conforter, nourrir cette ère à la fois de la post-vérité. Le doute peut aussi mener au complotisme, c'est-à-dire à inventer des hypothèses sur tout. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le succès de Donald Trump, dans cette élection, il faut voir aussi dans nos sociétés le besoin d'une culture de la vérité, du résultat, un besoin de se rassurer en trouvant des réponses simples et communes à beaucoup de questions qui sont soulevées aujourd'hui?
Ce que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que, à mon sens, les convictions, notamment les convictions politiques, sont souvent, disons, motivées affectivement par les émotions. Et bien souvent, on va créer des idéologies où on va s'accrocher, en quelque sorte, à des idéologies qui, dans une large mesure, expliquent ou apportent une explication aux émotions. C'est vrai notamment du racisme ou du sexisme. Il y a un sentiment, disons, très négatif qui arrive à s'exprimer à travers une espèce de justification et dans des théories. Alors, d'ailleurs, c'est pas simplement l'apanage de la droite, la gauche aussi ou le centre. C'est une tendance très humaine à vouloir trouver des espèces de justification à travers de tels exutoires. Et puis, ne mâchons pas nos mots. Donald Trump a été élu par un électorat blanc, davantage des hommes que des femmes, et surtout essentiellement donc des hommes blancs, faut bien le dire. Son message, l'image qu'il véhicule est celui de la misogynie, de racisme, de xénophobie. Tout cela présente un attrait réel à une partie considérable du public américain. Et moi, il me semble que l'une des raisons, en tout cas, pour lesquelles il a pu être élu, c'est que, finalement, les États-Unis ne se sont jamais vraiment interrogés sur leur propre histoire. Et ce, notamment, tout ce qui touche à, disons, l'héritage de l'esclavage, le Jim Crow, le noir en citoyen de deuxième zone, un racisme institutionnalisé. Alors, là, je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus.
Mais est-ce qu'un an après, finalement, la prise de pouvoir de Trump, le constat sur ce que vous dites est si évident aux États-Unis, vous qui vivez aux États-Unis?
Évident, je ne sais pas. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que la presse écrite, essentiellement, disons, la presse respectable s'est littéralement plantée pendant la campagne. Il me semble que la campagne électorale a révélé, d'une certaine façon, la misogynie américaine de manière particulièrement choquante. Ce que Donald Trump est aujourd'hui n'est en rien différent de ce que nous avons vu du candidat pendant sa campagne. Mais, et pour de nombreuses raisons, notamment le fait que la grande presse ne pensait simplement pas qu'il allait être élu. Et donc, la presse a adouci ses critiques à son encontre. On ne parlait jamais de mensonges, par exemple, jusqu'à ce qu'il soit élu, justement. Et maintenant, donc, un an plus tard, je crois qu'effectivement, on constate une certaine résistance. Moi, j'étais à la parade des femmes, la veille de l'inauguration. Nous étions bien plus nombreuses qu'il n'y avait de public à l'inauguration elle-même. Certes, des groupes de femmes et de féministes, mais d'autres y travaillent, sont à l'œuvre depuis des années, qui ne sont pas d'ailleurs liées uniquement au Parti démocrate, mais ces femmes-là votent pour les démocrates. Et ce qu'on peut espérer en tout cas, c'est qu'en 2018, maintenant, les Américains soit reprennent le Sénat ou alors la Chambre des députés. Ça changera l'équilibre des forces. Donc il y a une résistance. Hein. Le constat commence à se faire jour, disons.
Vous parlez de position, racisme, etc. Mais sur l'état mental dont on a parlé par ailleurs, puisque même quand il a publié son bulletin de santé récemment, on s'est interrogé sur savoir s'il y avait ou pas une analyse sur cette question. Vous qui vous occupez évidemment de psychologie et de psychiatrie, est-ce que vous avez un point de vue ?
Alors, à mon sens, les psychiatres ont pris deux positions par rapport à cette question. Certains disent que voilà, on ne peut pas, on ne saurait diagnostiquer quelqu'un à distance. Okay. D'autres psychiatres, d'ailleurs, ont publié des articles sur ce que devrait être le diagnostic. Bon, on n'a pas besoin d'être un génie, enfin n'importe quel psychiatre en examinant le personnage vous dira que c'est un psychopathe. Maintenant, on peut parler de troubles de la personnalité asociale et une belle autre description, c'est le narcissisme malin, c'est-à-dire qui peut être ainsi néfaste. Alors, quels sont les symptômes? Le mensonge pathologique, l'incapacité à planifier l'avenir, l'absence de maîtrise des impulsions, l'absence de culpabilité et l'absence d'empathie. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Enfin, je crois que c'est la description parfaite du président des États-Unis, ou je me trompe. Bon, vous avez ce personnage. Il y avait une espèce de checklist en 40 points. Et d'ailleurs, j'avais regardé une fois quelque chose comme ça pour Donald Trump. Il coche plus d'une trentaine de cases dans cette liste.
And so what, en même temps, on a envie de dire, Cyril Husvet, parce qu'à force de le faire passer pour fou ou de faire ce constat-là, enfin néanmoins, il est à la tête des États-Unis, à la Maison-Blanche depuis un an, et il continue à faire à peu près ce qu'il avait annoncé vouloir faire lors de sa campagne présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'on a raison de continuer à le faire passer pour fou? Est-ce que c'est le bon combat politique à mener aujourd'hui quand on est face à une société, vous venez de l'évoquer, qui est aussi fracturée, qui ne s'est peut-être jamais posé les bonnes questions sur son histoire, une société qui doute. Alors ça, c'est le cas de le dire.
Vous savez, la psychopathie est extrêmement difficile à traiter. Un psychiatre, la dernière chose qu'un psychiatre a envie de faire, c'est de soigner un psychopathe ou d'avoir affaire à un psychopathe. Et il y a beaucoup de psychopathes qui, par ailleurs, sont fonctionnels, pour ainsi dire. Donc ça, en soi, ne change rien au fait que, bon, Donald Trump a été élu. Et là, je vous rejoins entièrement. Je crois que ce qui doit se passer, par contre, c'est que la majorité des Américains doivent s'exprimer par leur voix et changer de gouvernement en 2018.
L'essayiste américaine Cyril Husvet est notre invitée pour son essai « Apparaître, les mirages de la certitude entre psychologie, philosophie et neurosciences », un royaume qu'elle explore dans ce nouvel essai. Vous abordez aussi beaucoup la question de l'avenir dans ces lignes. Je ne crois pas à l'avènement en 2038, 2040 ou 2045 d'une ère post-biologique et surnaturelle de robots brillants et immortels. Je ne le crois pas parce que je pense que le paradigme de ces prédictions est faux. En quoi ?
That is absolutely true.
Très juste. Et d'ailleurs, justement, dans mon ouvrage, j'accompagne le lecteur à travers l'histoire de l'intelligence artificielle pour lui faire comprendre que finalement, la modélisation de l'esprit telle qu'elle existait, telle qu'elle a été adoptée par l'intelligence artificielle, cette modélisation est erronée parce que l'esprit n'est pas un ordinateur, c'est pas un système binaire. Et cette analogie est erronée. Alors, évidemment, ce modèle est séduisant parce que si effectivement on peut en quelque sorte extraire l'esprit du cerveau et du reste du corps et en faire une espèce d'objet non biologique. Ben alors effectivement, on peut reconstituer cet esprit dans des machines, dans des ordinateurs. C'est ce qu'essaie de faire justement l'intelligence artificielle. Et je dis d'ailleurs que cette réflexion s'accompagne de véritables fantasmes qui tournent autour de la naissance, c'est-à-dire de pouvoir créer, de donner naissance à des êtres quasi humains, meilleurs même que les humains, voilà, et immortels, voilà.
Des fantasmes ou des rêves d'exaucement, même, écrivez-vous, hein. Mais vous avez raison, l'avenir reste une fiction. Est-ce que vous ne pensez pas, à défaut de laisser ce soin-là aux écrivains, que les scientifiques ont raison, d'une certaine manière, de s'en emparer et tenter de commencer à imaginer l'avenir pour savoir où l'on va?
Well, yes. Well, what is the future? The future
is itself a fiction. Qu'effectivement, quel est l'avenir? Vous dites l'avenir est une fiction, et vous n'avez pas tort, parce que et dès que l'on aborde l'avenir, dès que l'avenir devient présent, il n'est plus fiction. Et donc là, ce qui est à la base de l'imagination, c'est finalement la mémoire, mais également les attentes, hein, les ce que l'on attend de l'avenir. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes conscients de nous-mêmes, c'est tout ce que l'on sait faire, c'est-à-dire que nous pouvons évoluer dans notre esprit du passé pour nous projeter vers un avenir imaginaire. Mais les scientifiques ont été souvent influencés par la science-fiction, justement, et notamment ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle aussi a un passé et voit l'avenir? Ou est-ce que c'est ça la différence, finalement, avec ce que vous disiez?
Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Parce que quand vous regardez ce que sont ces fantasmes de créer des émotions ou des êtres conscients qui ressemblent à des êtres humains, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on repousse toujours la date. Maintenant, les premières prévisions, c'était en 1985. Ensuite, on a dit non, ce sera plutôt en 1995. Et puis, en 2008, et on repousse toujours ces dates, et puis maintenant on se rend compte que, voilà, on dit, voilà, en 2030, 2040, voilà, c'est le nouvel horizon. C'est assez intéressant de voir cette évolution de l'histoire anticipée de l'intelligence artificielle. Il faut quand même dire que cette discipline a pu faire quand même des choses remarquables, hein, parce que nous avons des robots qui font quand même des choses remarquables. Moi, ce dont je parle d'ailleurs dans mon essai, c'est de la création de sensations, c'est-à-dire ou de conscience, ou de robots qui soient émotionnels, qui soient habités d'émotions. Mais là, dans les sciences actuelles, il n'y a rien qui nous mène à ça, hein, ou aucune raison de penser qu'on puisse s'approcher d'un tel résultat. Par contre, on peut faire toutes sortes d'autres choses remarquables, ça oui.
Et un robot pourra douter aussi.
Well, this is the thing.
Ah, ben voilà, tout robots est là, tout est là, parce que un robot doit être programmé.
Est-ce que cet avenir-là, Cyrus Vett, et on terminera là-dessus, vous inquiète d'une certaine manière? En France, on vient d'ouvrir, et ça va durer 6 mois, une grande consultation citoyenne des états généraux de la bioéthique qui sont lancés en ce moment et qui interrogent aussi la question morale, la question éthique à l'intérieur de cette révolution technologique et scientifique qui est en cours. Est-ce que la philosophie peut venir au secours de la science sur ces questions?
Absolutely.
Mais oui. Alors, effectivement, la bioéthique est un domaine de réflexion essentiel. Une partie de l'imagination humaine consiste à se projeter dans un avenir possible et de s'y préparer, même si nous n'avons pas d'androïdes qui ressemblent aux êtres humains. Nous avons quand même une technologie assez sophistiquée qui nous permettra de changer la réalité telle que nous la voyons aujourd'hui. Et les philosophes, aussi bien d'ailleurs que les linguistes, les sociologues, les géographes, toutes ces disciplines ont leur rôle à jouer dans la préparation de ce qui nous attend.
Merci beaucoup à vous, Siri Husvedt. Vous filez prendre le train ou la voiture, qui sait, pour rejoindre le Havre où vous allez donner des conférences dans le cadre du festival Le Goût des Autres. Merci beaucoup à vous. Les Mirages de la Certitude, et c'est traduit de l'américain par Christine Leboeuf, paraîtra à la mi-mars prochain chez Actes Sud. Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr. Vous pouvez nous écrire et vous abonner au podcast de l'émission, à la programmation préparation. Aujourd'hui encore Claire Maillot et Chloé Leblanc, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse, très précieuse, de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. La réalisation Perret Legras avec Élise Le. Très bel après-midi à tous et à demain.